Mais la preuve, elle est totale. C'est écrit. Entre les cris, entre les sages d'Israël, on écoute les sages d'Israël. Il y a eu, dans l'histoire du peuple juif, des dizaines de courants qui sont allés contre les sages d'Israël. Et d'habitude, au bout de 2, 3, 4 générations maximum, tous les descendants sont goy, terminés, ils ne sont plus juifs du tout. Lui, il est resté juif. Son fils à moitié, son petit-fils un quart, arrière-petit-fils zéro. Finito, terminé! Ce jour dédié pour Chaim Victor ben Kami Kamuna, qu'Hachem lui donne la santé, une bonne santé, une bonne parnassa, et pour son fils, Iga Yosef Khalfoun ben Yafa Milia, qui lui amène rapidement un bon mazal, un bon zivouk, Bezrat Hachem, et toutes les brachot. Amen. À la question de Zacharie.
Est-ce que vous pouvez voir un peu des femmes qui mettent les filines au côté de la sphère droite, pourquoi ça
roule ? Les femmes qui mettent les filines au côté, et avec la Torah, etc. Sujet super important, qui permettra de parler d'une chose des plus basiques qu'il puisse y avoir. Quand Hachem donne la Torah au mont Sinaï, les anges ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? Où est le problème? Parce qu'en fait, Hachem, il a donné la Torah écrite. Mais cette Torah écrite telle qu'elle est écrite ne nous dit pas de façon suffisamment claire qu'est-ce que Dieu veut de nous. Il y a des gros titres. Par exemple, Shabbat ne fera pas de Melacha. Ni toi, ni ta femme, tes enfants, ton serviteur, tes animaux. Qu'est-ce qu'une Melacha? Il y a un traité entier de plus de 150 pages de Talmud là-dessus. Des centaines de milliers de lignes ont été écrites à ce propos, de parler de toutes les lois de Shabbat. Et c'est une seule phrase dans la Torah, pas faire de Melacha. Et ainsi, pour presque toutes les mitzvot, qu'on peut dire carrément qu'il n'y a pas, presque pas une mitzvah dans la Torah qui est claire telle qu'elle est écrite, les tefillin. Tu porteras ces paroles en toute ta faute entre tes yeux. Toute ta faute, ce n'est même pas de l'hébreu. Tot signifie en africain deux, et en ketfi, c'est une autre langue, deux. Deux et deux, entre tes yeux. Quoi, deux et deux, entre tes yeux? Entre les yeux. Là. Quoi? Ces paroles. Quoi, j'accroche aux lunettes des petites bandes comme ça avec des paroles de Torah. Le hot et l'altra, et en signe sur ta main. Normalement, tu dois porter le filin ici et là. Celui qui fait ça, il n'a pas fait la mitzvah. Comme ça, à peu près toutes les mitzvot. À peu près. Et des fois même que le sens que expliquent les sages d'Israël est contraire de ce qu'on voit quand c'est écrit. Contraire. Là, les anges n'ont pas accepté que les êtres humains vont recevoir le droit d'expliquer la Torah. Et on a des cas encore pires. Où on a un débat, par exemple, dans la Gemara, c'est dans Bava Metzia, page 59, à propos de Tanuro shel Achnai, un four de Achnai. Achnai, c'est un type de serpent. À l'époque, les fours étaient faits en poterie. Maintenant, si un lézard mort tombe dans le four, ou même rentre dans l'air du four, d'accord, tout le four devient impur. Aujourd'hui, on n'a plus ces lois, on n'a plus les lois de pureté et d'impureté, dans quelques jours, ça revient vers Tachan avec Mashiach. Il fallait casser le four. La poterie, le saumon n'est réparé, on ne peut pas le tremper dans un mikvé, on le casse. Quelqu'un a une bonne idée, on va le casser, on va le couper en lamelles. Après, on va mettre une lamelle, du ciment, une lamelle, du ciment, une lamelle, on reconstruit le four. Est-ce que l'impureté est partie ou elle revient? Parce qu'en deux mots, tu as refait le même four. Alors, est-ce qu'elle est partie, elle ne revient plus, ou par le fait que tu l'as refait, elle revient elle aussi? Discussion deux grands sages d'Israël, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il était très fort, très dur. C'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Premier rabbin qui est cité dans la Mishnah et dans la Gemara. Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Je ne sais plus quel avis il dit, c'est impur ou pur ou impur. Rabbi Yoshua et tous les sages d'Israël disent contraire que lui. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que ce caroubier se lève et là, il se replante 400 mètres plus loin. Le caroubier se lève, on le voit courir comme ça, tac, il se plante à un autre endroit. Rabbi Eliezer dit, on n'apporte pas des preuves pour la Torah d'un caroubier. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que cette rivière s'arrête ou repart dans l'autre sens. Elle s'arrête ou repart dans l'autre sens. Rabbi Eliezer dit, on n'appelle pas des preuves de la rivière. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que les murs du Beit Midrash commencent à s'écrouler. Et les murs du Beit Midrash commencent à s'écrouler. Rabbi Yehoshua leur dit, arrêtez-vous là, ce n'est pas votre histoire. Les sages-israéliens sont en discussion, ce n'est pas votre affaire. Et depuis ce jour-là, dit la Gemara, les murs du Beit Midrash ont été tordus comme ça. Parce que s'ils se remettaient, ce n'était pas kavod pour Rabbi Eliezer. S'ils tombaient, ce n'était pas kavod pour Rabbi Yehoshua. Donc ils sont restés moitié-moitié comme ça, sans faire de problème, pour être bien avec tout le monde. À la fin, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'une voix sort du ciel et dit que j'ai raison. Une voix sort du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Et Rabbi Yehoshua a dit, on n'écoute pas les voix du ciel. Dieu a donné la Torah à nous, aux sages d'Israël, c'est nous qu'on décide la Torah. Ça, les anges n'ont pas accepté. Et néanmoins, Dieu a donné la Torah aux hommes, et c'est les sages d'Israël qui fixent la Torah. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il a fait Dieu à ce moment? Quand Rabbi Yehoshua, il a dit, on n'écoute pas la voix du ciel, il a souri, et il a dit, Netzruni banai netzruni, mes enfants m'ont vaincu, ils m'ont vaincu. Quelque part, on va contre Dieu. Et Dieu accepte et dit, vous avez raison, je donne la Torah, c'est vous qui décidez. C'est écrit clairement dans le livre de Dvarim, chapitre 17, versets 8 à 11. Pourquoi je sais par cœur? Parce que tellement de fois, j'ai dû répéter aux gens ces choses-là. Qu'il y a une obligation de la Torah d'écouter les sages d'Israël. On va lire, et merci Hachem, la Miglat Esther, ce mercredi pour eux. Yerushalayim. On fait une bracha à chaque Kedeshan, Bemitzvah et Sevano, Al Mikra Megillah. Dieu nous a ordonné de lire la Megillah. Dieu nous a ordonné. C'est Mordechai et Esther. C'est pas Dieu. C'est les sages d'Israël. À chaque Kedeshan, Bemitzvah et Sevano, Al Netilat Yadayim. Tous les matins on se lève, on fait la bracha Netilat Yadayim. Dieu nous a ordonné. Où c'est marqué Netilat Yadayim? C'est les sages d'Israël qui ont institué. Nous sommes la Glickner chez le Shabbat, allumer les bougies de Shabbat. Oui, nous a ordonné, c'est une loi des sages d'Israël. Répond la Gemara. Dieu a ordonné d'écouter les sages d'Israël. Donc quand les sages d'Israël ordonnent quelque chose, et tu le fais, tu écoutes Dieu. Et c'est marqué là-bas, dans Dvarim. Tu écouteras donc les sages d'Israël de chaque génération, et tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à gauche, ni à droite. Pourquoi c'est marqué « Tu ne bougeras pas de ce qu'ils diront, ni à gauche, ni à droite ?» tu ne bougeras pas de ce qu'ils diront, c'est clair. » Rachid dit, les sages d'Israël l'ont dit, « Même sur la droite, ils te disent gauche, même sur la gauche, ils te disent droite. » Tu amènes une preuve. Mais la preuve, elle est totale. Eux disent, « Non, mon cher ami. » Mais c'est écrit. Entre les cris, entre les sages d'Israël, on écoute les sages d'Israël. Terrible ! À un point tel. Agma raconte dans Traité Sanhedrin, page 104, que les sages d'Israël se posaient la question, est-ce que les écrits de Salomon, le roi Shlomo, ils sont justes? Et les trucs qui clochaient un peu. Ils se posaient la question, est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on va dire maintenant, si c'est faux, donc il racontait des histoires au nom de Dieu, et il doit aller en enfer. Il n'a pas part au monde à venir. Un feu est tombé du ciel, a commencé à dévorer les sièges du Beit Midrash. Ils s'en foutent complètement, les sages d'Israël continuent. Du coup, ils ont vu un roi se présenter devant eux, le roi David. Je vous demande de ne pas ôter mon fils Shlomo du Olam Haba. Il dit, écoute, mon cher ami, nous on fait ce qu'on va décider. Pour finir, ils ont décidé de le laisser. D'accord? Il est encore Olam Haba. Mais admettons qu'ils avaient décide du contraire. On dit que Shlomo n'a pas part au Lamaba. Alors Shlomo, il est au Lamaba. Dieu va lui dire, écoute mon cher ami, t'as vu, je te sors de Lamaba, je te mets en enfer. Mais non, il y est. Dieu l'a mis au Lamaba, il y reste. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Shlomo a Meler, que les sages d'Israël disent, c'est pour son kavod. Il n'a pas part au Lamaba. Dis ce que vous voulez, moi j'y suis, je suis pépère là au Lamaba, je kiffe, tout va très bien. Vous dites ce que vous voulez. Il n'y a rien à faire de ce qu'on va dire sur lui dans ce monde-ci. Eh bien, c'est pas comme ça. Si les sages d'Israël disent ici sur terre que Shlomo HaMelech n'a pas droit au Lamaba,
Hachem le prend de la main bas et le met en enfer. Désolé mon cher ami, mais, les sages d'Israël. Terrifiant.
Tant que quelqu'un me dira oui, mais ben, c'est normal, les sages d'Israël, ils ont écrit ça pour qu'on ait confiance en eux. Ils ont une sorte de, comme ça, ils ont écrit toutes sortes d'écrits qui disent, écoutez, t'es obligé de m'écouter, sinon ça va pas. En fait, on sait très bien qu'ils ont inventé et qu'ils ont même des trucs qui sont contre la Torah. Preuve en est que la Torah dit le contraire. Aïe. D'abord, la Torah dit qu'il faut écouter les sages d'Israël. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah écrite. Je répète la source, Dvarim, chapitre 17, versets 8 à 11. Ensuite, il y a eu, dans l'histoire du peuple juif, des dizaines de courants qui sont allés contre les sages d'Israël. Les chrétiens. À l'époque, il y avait les Ussiniens, les Zélotes et machin, toutes sortes. Aujourd'hui, ça pullule. Les conservatifs, les massortis, les réformistes, les libéraux, tout un mouvement qui disent « Ah, ils sont ultra-orthodoxes, ces rabbins. » En parenthèse, j'ai souvent dit ici, le mot, regardez dans les médias, jamais on parle des juifs religieux en tant qu'orthodoxes. Ça n'existe pas. T'as libéral, t'as conservatif, t'as non-religieux et t'as ultra-orthodoxe. Mais s'il y a un ultra-orthodoxe, il faut qu'il y ait auparavant aussi un orthodoxe. Il est où celui-là ? N'existe pas. Parce que quand on dit ultra, ça fait romaniste. Ça fait fou de Dieu, d'accord ? Il n'y a pas orthodoxe. C'est un truc des médias contre le monde religieux. Ils ont quelques jours encore, après ils ont dit capoute, mais ils ont attaché. Tous les autres mouvements qui ne font pas partie du mouvement des sages d'Israël, qu'on appelle dans les médias, hélas, ultra-orthodoxes, tous ces mouvements ont soit disparu, soit sont devenus des courants reconnus comme non-juifs, comme les chrétiens, bien que eux créent qu'ils sont le vrai Israël, bon, bah, tout le monde dit si je suis juif, bah, on comprend qu'il n'est pas chrétien, ou ce sont des mouvements, des fois florissants, mais qui acceptent les non-juifs et non-juives dans leur mouvement, et d'habitude, au bout de 2, 3, 4 générations maximum, tous les descendants sont goy, terminés, ne sont plus juifs du tout. D'accord ? On ne connaît pas. Il y en a, la vérité pour tout à fait précis, il y a une étude sociologique qui a été faite en Amérique, ils ont pris 5 mouvements juifs américains, conservatifs, libéraux, ils ont pris modernes orthodoxes, et ultra-orthodoxes, comme on dit. D'accord ? Eh bien, dans les 3 premiers, modernes orthodoxes, c'est orthodoxe, mais bon, un peu plus cool. Mais c'est religieux, pratiquant comme il faut, avec les sages d'Israël. Les 3 premiers, alors qu'ils ont fait une étude sur 3 générations, sur 100 juifs, à la fin, il reste un juif. 100 juifs, au bout de 3 générations, il ne reste plus qu'un juif. Tous assimilés. Alors, pour nous, c'est une preuve extraordinaire. Le seul mouvement qui a réussi à pourfendre l'histoire, il faut comprendre que le fait qu'on soit juif aujourd'hui, c'est le plus grand des miracles. Après 2500 ans d'exil, après toutes les tentatives des goyim qu'on disparaisse et physiquement, et spirituellement, toutes ces tentatives, et ici en terre d'Israël aussi, spécialement, on voulait faire du peuple juif israélien un peuple goy, qu'on soit encore juif, miraculeux. Un super grand antisémite, Blaise Pascal. Mais il écrit, le destin de ce peuple est singulier. Comment arrive-t-il à survivre à tous les exils ? Lui-même reconnaît, c'est anormal. Un grand rabbin, il y a 300 ans, s'appelle le Yabetz, Rabbi Yaakov Ben Zvi Emdin. Il a écrit un livre sur Sidro Yaakov. Là-bas, il dit, le plus grand des miracles quotidiens que nous voyons en exil, c'est la survivance du peuple d'Israël. Et je jure, comme ça il dit, que chaque jour, on continue de vivre, survivre en exil, c'est plus grand que tous les miracles qu'Hachem a fait en sortant d'Égypte. On dit la mer, la manne qui tombe, les premiers-nés, tout ça, il dit, c'est la gnognotte par rapport au fait qu'on reste juif. Qui a mérité ? Qui a mérité de rester juif ? Uniquement, exclusivement, absolument que, et tous les superlatifs qu'on peut encore dire, les juifs ultra-orthodoxes. Ceux qui ont bougé d'un iota, ils ont voulu changer ce que disaient les rabbins, lui est resté juif. Son fils à moitié, son petit-fils un quart, un petit-fils zéro. Finito, terminé. En Israël, vous me direz, ça va. Les restes juifs sont tous entre juifs. il y a, rien qu'à New York, 3 millions d'Israéliens, nés en Israël, ils ont fait l'armée et tout ça, dans l'hyper-totale majorité, mariés avec Christie. Est-ce que faire un juif à l'étranger, que ça prend 2-3 générations pour s'assimiler, ça, ils le font en 11 heures. Ils prennent l'avion à Loud, Ben Gurion, ils atterrissent à Kennedy, New York, ils vont déjà manger taref, ils fréquentent des filles goy, il n'y a plus rien. Ici, ils vont manger dans un restaurant lambda, la viande est cachère. Ils rencontrent une fille lambda, c'est une juive, il faut y aller pour trouver la langue juive ici en Israël. Il y en a, mais il faut y aller, d'accord. Mais vu qu'ils n'ont aucun anticorps avec les goïms, ils n'ont aucune habitude de vie juive, quand ils prennent l'avion, ils vont dans notre pays, ça c'est mille, terminé. Terrible. Les seuls juifs qui sont restés juifs à long terme et qui le resteront, parce que toute l'histoire elle a montré cela, uniquement ceux qui écoutent les grandes Torah. Ça, c'est réponse à donner. Alors maintenant, il y a un mouvement, comme mouvement libéraux et d'autres, d'accord, qui veulent, c'est envoyés du mal, d'accord. À mon avis, c'est les pires ennemis du peuple d'Israël. Parce que tous les goïms qui nous font du mal ne peuvent le faire parce que si Dieu a voulu. Et s'il y a des péchés, alors il permet aux goïms de nous faire du mal, à Dieu ne plaise. Mais quand un juif lui-même, il va faire le mal, alors c'est lui qui agit dans Dieu. Là. Dieu c'est la règle du jeu que Dieu a donnée. Dieu a dit, vous faites du mal, ben, ça mènera du mal dans le monde. Donc c'est eux qui ont la capacité d'amener du mal sur le peuple d'Israël en voulant faire sortir des juifs de la Torah. Mais comment ? Par exemple, dire, sois goï, va à l'église. Ils ne vont pas t'écouter. Il faut être moins rigoureux. Sois pas ultra-orthodoxe, sois libéral. C'est beau comme type. Oh, regarde, ultra-orthodoxe, ça fait noir. Libéral, ça fait bien, on est libéral, d'accord, on est bien. C'est exactement le contraire. Parce que le libéral, il va dire, je prends moi ce qui est écrit, et le reste, j'invente comme je veux, contre les sages d'Israël. Et comme je dis, vu que ces mouvements-là, d'habitude, après 3-4 générations, il n'y a plus personne qui reste juif, donc c'est la porte ouverte vers l'extérieur pour devenir goy. Il faut expliquer ça aux gens. Tu ne peux pas commencer à discuter, oui, la fille de Rachid portait des tefillines et des machins, et pas, regarde, cassez pas la tête, c'est des grands d'Israël. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les grands d'Israël, ils disparaissent. Il faut comprendre ça. C'est une loi de l'histoire qui a été vérifiée des dizaines de fois, du temps de Maïmonide. Il y a un mouvement extrêmement florissant, les Karaïtes. Ils s'est battu contre eux, terrible. Ils étaient presque, en Égypte notamment, où habitait Maïmonide, ils étaient aussi nombreux que les juifs traditionnalistes. Qu'est-ce qui reste d'eux aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste d'eux? Il y a 2-3, on appelle ça des églises Karaïtes dans le monde. Par-ci, par-là. C'est eux les juifs, morts. Les chrétiens, morts. Toutes les sectes qu'il y avait à l'époque du 2000 ans du Talmud, morts. Et comme je dis, on ne connaît pas un arrière-petit-fils de libéral juif. 1 sur 100. Et j'ai l'impression d'après, fini. Tout le mouvement qui a fait qu'aujourd'hui, tellement de juifs sont loin de Torah, a commencé par un certain Mendelssohn, qui est, on appelle ça le mouvement de l'émancipation, qui a dit, reste juif, pratiquant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu mettre de l'orgue à la synagogue. Pas Shabbat. Lundi, jeudi, on sort la Torah. Allez, un petit air. On sort la Torah. C'est beau? Pourquoi pas? Les rabbins disent non. Mais pourquoi pas? C'est marqué où? C'est marqué nulle part. Je ne comprends pas, vous êtes contre la Torah? Le caveau de la Torah. Les rabbins ont dit non. Pourquoi ils ont dit non? Ça ressemble aux églises, ça ressemble aux goïms. Non! Ils ont dit, ben nous, on fait nos propres synagogues. Oui! Tous les descendants, je peux dire aujourd'hui, on est 150 ans après plus, d'accord? Bientôt 200 ans. Tous les descendants des émancipés sont goïs. Terminé, wallo, pour l'orgue! L'orgue! Il faut comprendre. Cette Torah, elle est émet, elle est vraie. Presque émet égale faux. Et c'est beaucoup plus grave un presque émet qu'un totalement faux. Un totalement faux, tout le monde comprend que c'est faux. Je te mets une statue, maintenant prosterne-toi, allez, ça va pas. C'est faux, c'est un faux grotesque, grossier. Mais quand ça ressemble, c'est tout proche, ça s'appelle juif, c'est bien, ça fait Torah, te filer, tout ce que tu veux, pour les femmes, on est libéral, machin, tout ça, c'est mille fois plus pernicieux. Et c'est faux. Parce que presque vrai égale faux. Torah emet temima, c'est ma construction. Torah temim, temim signifie entière. Je ne veux pas un entier enlever et gratiner une petite partie.
Et cette Torah n'est que la Torah qu'ont édicté les sages d'Israël de chaque génération, comme c'est écrit dans Devarim, chapitre 17, versets 8 à 11. Tu écouteras les sages de chaque génération. Chaque génération. Voilà, quand tu expliques ça aux gens, et ce sont des gens honnêtes, ils comprennent, c'est pas facile, parce qu'on n'a pas envie d'écouter les sages d'Israël. On n'a pas envie d'écouter, on va faire ce qui nous semble, nous. Ok, alors t'es un orgueilleux. Regarde l'histoire. Tous ceux qui ont fait comme ça se sont plantés. Plantés. Voilà. Des questions sur ce sujet, messieurs ?
Gauche, gauche.
Tu me dis
gauche, c'est droite, et droite, c'est quoi? C'est
le contraire ou c'est non, des fois, tu as des versets dans la Torah. Par exemple. Dans les lois, des lois des sacrifices. Alors c'est marqué, si je me souviens bien, hein, si quelqu'un mange ce sacrifice après le temps, d'accord, alors c'est un karet. Et Israël dit non, on ne parle pas maintenant de manger, on parle d'autre chose. On parle de penser à le manger, je crois même autre part. Rien à voir avec le verset. Rien à voir. Et comme ça, plusieurs versets. Tu prends la Gemara, tu vois les sages d'Israël, ils ont dit le contraire de ce qui est écrit.
C'est ça la vraie Gemara.
Alors, qui a raison, l'écrit ou les rabbins? Il y a 2000 ans, les chrétiens ou autres ont crié, l'écrit. Ils sont goy. Tous ceux qui ont suivi, les comprenaient, c'est extraordinaire. Il y a 2000 ans, vient JC, d'accord? Il est cool, joue de la guitare, peace and love, d'accord, on est sympa. On aurait pu être attiré par ce qu'il racontait. Il ne faut pas être aussi rigoureux. Peut-être qu'il a raison. Comment savoir? Comment savoir? Aujourd'hui, après 2000 ans d'histoire, on voit très bien. Tous ceux qui ont fait différemment. S'il n'y a pas d'autres mouvements, normalement, on doit avoir moins 20 mouvements juifs aujourd'hui. 20! Pas que les nouveaux qui sont sortis il y a un ou deux siècles, d'accord? Libéraux, conservatifs, ma sortie, etc. Le rabbin dit ma sortie, j'ai une ville. Ils font une photo, on le voit, il porte une ville ici, là. Entre tes yeux, pauvre type. Pauvre type, c'est pas la mitzvah, c'est grave, c'est très grave. Très très grave. Alors que la Torah dit entre les yeux. Comment les sages d'Israël on peut dire autrement? On a un limoud, on apprend, etc., etc. Un limoud. Si les autres mouvements étaient dans la vérité, ils auraient dû avoir une pérennité. Donc aujourd'hui, on aurait dû avoir au moins 20-30 mouvements, avec tous les mouvements antiques qu'il aurait dû avoir. Ils sont où? N'existe pas. Il n'y a que un qui date d'il y a 3334 ans, le mouvement orthodoxe, et toutes sortes de mouvements qui sont nouveaux, qui sortent comme ça, qui le jamais un de ces mouvements a dit on va faire plus. Toujours moins. D'accord? C'est-à-dire, on louche vers l'égoïme, on veut se rapprocher d'eux, mais de façon pernicieuse.
Pourquoi les chrétiens, ça s'appelle pas un mouvement?
Les chrétiens, ça s'appelle un mouvement. Ah, aujourd'hui, je veux bien, mais j'ai dit, il n'y a plus de mouvement juif appelé juif. Aucune personne au monde dira maintenant le peuple juif, il pense aux chrétiens. Bien que eux disent qu'ils sont le vrai Israël, etc. D'accord? La substitution, c'est une théorie chrétienne. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que c'est faux. Chez les chrétiens aussi. Et eux se font appeler les juifs. Mais aujourd'hui, personne ne va dire qu'un bon juif dit moi je suis un bon juif, et puis et les chrétiens. Eux, ils disent que lorsque les juifs ont refusé de reconnaître le crucifié, alors Dieu a rompu l'alliance qu'il a conclue avec nous, l'a conclue avec eux. Alors nous, on est le corps d'Israël, eux sont le virus d'Israël. Bon, aujourd'hui, ils sont en pleine déconfiture, eux aussi, d'accord. Attends, c'était vraiment un empire. Aujourd'hui, tout le monde se moque d'eux avec tous les scandales qu'ils ont là-bas de Hachem Shmor, d'accord. Des questions encore là-dessus, messieurs? C'est un principe sacro-saint. Qu'il est des fois dur de comprendre. Mais comprenez que la Torah, elle est dans les mains des sages d'Israël. C'est pour ça que la Torah chez Baal Pé, la Torah orale que nous étudions ici, c'est ça l'essentiel, l'essentiel de tout. Avec la Torah écrite, on peut faire dire à la Torah écrite tout ce qu'on veut. Voilà. Le crucifié est venu, il a dit non, c'est mange pas de porc, c'est conceptuel. D'accord? Peut-être qu'il a raison. Le Ramban, Nachmanide, il dit qui me dit maintenant, il y a des versets dans la Torah, que les sages d'Israël a dit qu'il fallait les lire avec un point d'interrogation. Par exemple, c'est marqué, si tu vois une chose perdue qui appartient à quelqu'un dans la rue, Vitalam Tamehem, est-ce que tu pourras l'ignorer
L'autre est talent. Tu n'y en auras pas, tu ramèneras chez toi, tu vas annoncer, j'ai trouvé une chose, venez la reprendre. Les sages israélites disent non. On peut le lire aussi ce verset. Vu que t'es l'âme t'es-même, tu ignoreras. Mais le sens n'est pas comme ça. Le sens c'est est-ce que tu peux ignorer? Tu n'ignoreras pas. Il dit non, tu ignoreras. Il analyse comme ça. Il dit il y a des cas, oui. Par exemple, un Cohen qui voit maintenant une chose perdue dans un cimetière. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu ignores. Un sage d'Israël, il voit par terre tout à coup, je ne sais pas moi, une petite poupée. C'est la ramasse, les gens vont dire, ça ne se fait pas, le Rabbi Yosef, comme ça, il se ramasse, il prend une petite poupée, il la prend dans ses bras, et les gens vont rigoler. Pas c'est un bon exemple. En tout cas, quand c'est pas, il a trouvé une brebis, d'accord. Le Rabbi Yosef, il tire la brebis, elle ne veut pas venir, il la tire comme ça, ou un âne, d'accord. L'olechvodo, ce n'est pas en son honneur. Si ce n'est pas en son honneur de la personne, ça réduit, et c'est quelqu'un qui est honorable vraiment, il n'y a pas qu'il ait de l'argent, un truc comme ça, un sage d'Israël, alors il a l'obligation d'ignorer cette chose-là et pas faire attention. Donc il change. Le sens, le Ramban dit, on peut dire toute la Torah, peut-être qu'il faut la lire tout avec un point d'interrogation. Tu tueras point? Ça dépend, le type t'énerve vraiment, tu peux. Tu voleras point? Tu vas laisser maintenant sa bagnole ouverte, les clés dans le contact, tu voleras point? Il faut l'enseigner à jamais faire ça, tu prends la voiture, elle est à toi, etc. Qui sait quand on lit avec un point d'interrogation ou sans point d'interrogation? C'est les sages d'Israël qui disent. Donc toute notre Torah provient uniquement des sages d'Israël. Celui qui remet en question les sages d'Israël remet en question toute la Torah, surtout la parole de Dieu qui a ordonné d'écouter les sages d'Israël. Et ça, il faut bien faire comprendre aux gens pour ne pas qu'ils tombent dans le panneau terrible de ces mouvements qui sont les pires ennemis du peuple d'Israël, je maintiens. Les pires ennemis. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.